Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie, on est jeudi, il est 4h, c'est donc l'heure de commencer les lectures érotiques de Charlie. Et cette semaine, je vais vous emmener vous balader dans le livre publié aux éditions La Musardine, c'est « Oser, 20 histoires de faits divers sexuels ». Alors si vous suivez régulièrement cette émission, vous avez déjà entendu des extraits de livres de cette collection « Oser 20 histoires ». Si vous ne connaissez pas le principe, c'est tout simple. C'est des livres qui regroupent 20 nouvelles. C'est des livres collectifs. En fait, tout le monde peut participer. Il y a un blog « oser-vos-histoires-2-sexe.com » et régulièrement, des thématiques sont proposées. Tout le monde peut proposer, envoyer sa nouvelle et la Musardine sélectionne les 20 qui lui plaisent le plus. Et voilà, c'est un moyen, un bon moyen de commencer à être publié si on a envie. D'ailleurs, figurez-vous qu'en ce moment, il y a un appel à texte. Ça sera sur la thématique de l'infidélité, oser 20 histoires d'infidélité. Et on a jusqu'au 1er janvier 2017 pour rendre nos textes. Alors, oser 20 histoires de faits divers sexuels. Eh bien là, les auteurs se sont amusés, c'était la thématique imposée. Les faits divers des journaux révèlent parfois des surprises très épicées. Et là, les auteurs se sont amusés à imaginer des histoires de faits divers sexuels. Les nouvelles que je vais vous lire, eh ben, on va voyager dans plusieurs univers. La première par laquelle je vais commencer a un titre que je trouve très drôle, c'est « Ivre, il est retrouvé mort avec une banane dans l'anus ». C'est écrit par Sidonie Mangin. Le hashtag de l'émission, hashtag LEC, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi m'envoyer vos tweets directement. Mon Twitter, c'est Charlie Live Show. On va commencer sans plus attendre. Si vous voulez vous procurer ce livre ou un des, je crois qu'il y a 34 titres en tout de Oser 20 histoires, donc un des 33 autres titres, n'hésitez pas, rendez-vous sur le site lamusardine.com. Voilà, voilà. Alors, on est parti, je vous rappelle le titre de la nouvelle, c'est « Ivre, il est retrouvé mort avec une banane dans l'anus » et c'est écrit par Sidonie Mangin. Alors, j'attaque pas à la toute première page, donc en gros, il y a une jeune fille qui est encore un petit peu éméchée, qui est dans un commissariat et qui est entendue par le flic en face d'elle. Et elle lui explique qu'elle a rencontré Émile Jourdan peu de temps la veille, le soir même, en fait, vers 19h, et qu'il lui a offert un coup à boire, tout ça, et qu'ils ont commencé à discuter. Voilà, le décor est planté, on y va, on attaque. Les lectures érotiques de Charlie, c'est parti. Oser 20 histoires de faits divers sexuels, publié à la Musardine. Là, c'est une nouvelle de Sidonie Mangin. Ivre, il est retrouvé mort avec une banane dans l'anus. Bien, et de quoi avez-vous parlé? Oh, de tout et de rien au début. Il m'a parlé de sa vie, il était traducteur, marié et père de famille, presque grand-père. Il disait qu'il regrettait presque tout. Que ça avait passé en un instant, pour rien. C'était plutôt triste à dire vrai. Il disait qu'il avait essayé. Essayé ? Essayé quoi ? De vivre, enfin, d'être heureux ou juste vivant, vous voyez ? Plus ou moins. Continuez, je vous en prie. Finalement, on a discuté plusieurs heures et bu plusieurs verres aussi. Il disait que les gens ne faisaient jamais ce qu'ils avaient envie de faire. À ce moment de la discussion, je dois dire qu'on était plutôt ivres. On a beaucoup parlé et beaucoup ri. Ok ? Et après ? Ensuite, après que j'ai fini par lui dire que je n'avais pas de rendez-vous, ça l'a fait rire ça aussi. Il m'a dit qu'il le savait très bien parce que j'avais cet air-là, cet air de femme très seule mais très heureuse. Bref, il a commencé à me poser un tas de questions sur moi, ce que je faisais, ce dont je rêvais, tout ça. Et je peux vous dire que ça me faisait vraiment plaisir de parler avec lui. Parce que, contrairement à lui, j'avais l'impression d'avoir foutu ma vie en l'air, moi, à force de ne faire que ce dont j'avais envie. Et alors ? Je veux dire, venons-en un peu plus au fait, s'il vous plaît. Essayez de ne pointer que les détails importants. Alors, pas grand-chose. Il m'a dit que je me trompais. Que je faisais ce que les autres avaient envie que je fasse. Que ça me suffisait, sans doute. Mais que ça ne suffirait pas. Je n'ai pas compris au début. Comment ça, au début ? Au début de quoi ? Vous non plus. Vous ne comprenez pas, hein ? Il essayait de me donner quelque chose. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est trop compliqué. Si vous pouviez éviter de suggérer que je suis un débile, ça serait sans doute mieux. Et ce n'est pas compliqué, Mathilde. J'ai juste besoin de comprendre le fil des événements, ok? Bon sang, cet échange m'épuisait. J'essayais de rester concentrée, mais je n'arrivais pas à faire le tri. Et puis Émile était mort, pour de bon. C'était donc vrai. J'en revenais à peine. C'était comme naître à l'âge adulte avec une mère morte en couche, putain. J'avais envie d'être dehors, de dévorer le ciel des yeux, d'entendre le silence et le bruit autour, d'être seule, pas de rendre des comptes à un absurde flic qui ne pigeait rien. J'avais une nausée terrible, des petits points rouges dansaient devant les yeux. J'ai respiré un grand coup. Il fallait bien que ça finisse et un caprice ne mettrait aucun terme à ça. Je n'avais plus 6 ans, malheureusement. Ok, pour résumer, on s'entendait bien, la discussion était vraiment chouette. Je ne sais pas. Ce type me touchait, c'est tout. Et puis, j'avais besoin de parler aussi, sans doute. Vous aviez besoin de parler. Bien. Ceci explique donc naturellement que nous ayons retrouvé Jourdan mort cette nuit, nu, la bite couverte de crème, et cela dans un cadre plutôt étonnant, puisqu'il était allongé sur un lit défait, dans un hôtel miteux, avec pour seule compagnie un régime de bananes dont une était placée dans son anus. C'est bien ça? À ce moment-là, j'ai su que ça ne servait à rien de mentir. J'ai rebroussé chemin en moi-même. J'étais prête à recommencer, dire la vérité, ou presque. Dire une vérité ou une autre. Ça va, pas la peine de s'énerver. Je vous ai menti. Je connais Émile depuis longtemps, 5 ans presque exactement. Nous étions amants, en quelque sorte. J'étais amoureuse, je crois. Lui, je ne sais pas, je ne saurais jamais. Donc hier soir, ce n'était pas un hasard. Non, on s'était donné rendez-vous. C'était censé être le dernier, je voulais le quitter, mais il ne le savait pas. J'avais prévu une dernière nuit d'exception. En effet, il en est mort. À moins que vous ne souhaitiez me dire qu'il n'est pas mort par hasard. Ce n'est pas de ma faute, je n'ai jamais voulu ça. Pouvez-vous enfin me raconter ce qu'il s'est passé hier soir? Oui. On a effectivement bu ses verres et parlé exactement comme je vous l'ai dit. Ensuite, il m'a donné rendez-vous à l'hôtel. J'ai d'abord refusé, je voulais qu'il vienne chez moi. Je n'étais pas encore sûre de pouvoir le quitter. Je pensais que s'il venait chez moi, ça me donnerait une chance, qu'il m'aimerait enfin et voudrait rester. Rester vraiment, je veux dire. Mais il a refusé très brutalement. J'étais assez en colère. J'ai failli lui dire d'aller au diable et je lui ai demandé de me laisser seule, que j'allais y réfléchir. Il m'a laissé l'adresse de l'hôtel et il est parti. Et ensuite? Ensuite, j'ai bu 2 verres de plus pour me décider. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait semblant de réfléchir. Je savais déjà que j'irais. Avec lui, c'est comme si je n'avais plus aucun pouvoir de décision. Une fois arrivée à l'hôtel, j'ai vu un ascenseur, un hall sinistre et il faisait chaud. Je m'efforçais de marcher sans bruit, mais mes talons résonnaient. Je savais que j'étais la seule à percevoir le bruit. Pourtant, j'étais terrifiée. Il m'avait prévenue. Personne ne doit savoir. Je savais que ça signifiait personne ne doit souffrir, sauf moi, je suppose. Mais je m'en foutais. Pire, j'aimais ça. Je m'efforçais de croire qu'un jour, il se laisserait prendre. Vous voyez? Non? Bref. Ça m'aidait à être joyeuse, à rire de tout, à ne rien faire peser sur mes talons, à venir vers lui. Je savais pourtant que c'était faux, il ne m'offrait aucune prise. Je savais que je ne l'aurais pas. Je crois que ça me rendait triste parfois. Je n'en suis pas sûre. J'ai gratté à sa porte d'hôtel. J'ai vérifié 4 fois que c'était la bonne chambre avant. J'ai enregistré tous les détails. La couleur du sol, la moquette tachée, le papier peint qui bullait par endroits. Ça me servirait plus tard. Quand j'aurais besoin de me souvenir de cette étreinte-là, je prenais mentalement des notes pour refaire ce trajet n'importe quand après, surtout après, comme maintenant, quand tout ça semblerait n'avoir existé qu'à peine une minute, une toute petite éternité. J'ai gratté à sa porte, donc. Il a fait semblant de ne pas m'avoir attendu. Son sourire s'est formé comme si on ne s'était jamais vu avant. D'ailleurs, je me demande s'il aurait toujours eu cet air surpris de me voir. J'étais heureuse, j'étais comme une pom-pom girl, mon cœur explosait. Je me concentrais juste ce qu'il faut pour ne pas trembler et lui sembler légère. J'avais peur de le faire fuir sinon. J'ai dû être trappeur dans une vie antérieure. Et puis j'ai posé mon grand sac, j'ai lancé « Hey, ça va jeune homme ?» J'essayais d'être souple, drôle et naturelle, parce que je sais que je ressemble parfois à une bestiole affamée. Je n'avais pas envie qu'il voie ça. Je l'ai joué Audrey Hepburn. Je minaudais un peu, je penchais la tête, je souriais en plissant les yeux. J'ai enlevé l'élastique qui retenait mes cheveux. J'étais persuadée que ce geste lui plairait. Et puis j'avais prévu de faire ça quand j'imaginais cette rencontre les jours d'avant. J'ai fait ça, j'ai attendu un peu. J'attendais qu'il me balance une phrase avec « baby » dedans, un truc américain. C'était tout à fait son genre. Et il avait raison, ça lui allait tellement bien. Je sentais que j'étais déjà en train de fondre. Mon ventre était liquide, mon cœur battait dans mon cul. C'était l'enfer. C'était désolant de plaisir. Je me suis concentrée sur la fossette à gauche de son menton. Ses yeux, je ne pouvais pas encore. Ça m'aurait obligée à être amoureuse et idiote. Je m'y refusais. Je savais que ça le ferait partir, même si c'est en douceur qu'il l'aurait fait, j'en suis sûre. Ensuite, j'ai activé la femme fatale, comme on met un starter en marche. Ça se fait presque tout seul chez moi, et je n'ai que ça en vérité. Je savais qu'on ne s'en dirait pas plus, qu'on ne se dirait rien en fait. Je me disais aussi que c'était moi que je cherchais à aimer, qu'il n'était qu'un élément de transit, que je ne l'aimais pas, que c'était juste une idée. Mais pour tout dire, je ne savais plus faire le tri. Je ne sais plus ce que je pensais. Je le regardais. C'est lui que je regardais, je ne sais que ça. Je n'attendais pas qu'il fasse quelque chose. Je lui ai souri, j'ai enlevé mon t-shirt, j'ai tout enlevé, pas très vite. J'étais toujours debout devant lui, il ne faisait rien, mais il souriait toujours. Ça avait l'air de l'exciter, je n'en suis pas certaine. Alors, j'ai commencé à me branler. Il m'a regardé faire pendant 10 minutes, j'étais vraiment trempée, mais j'essayais de ne pas venir et de garder un semblant de contrôle. Mathilde, je ne crois pas qu'il soit vraiment utile de donner autant de... Ah non, laissez-moi finir, hein. Vous vouliez savoir, maintenant vous écoutez. Ça ne sera pas long de toute façon. Certes, peut-être, mais... Chut ! Je me branlais donc. Je n'arrive pas à faire semblant, il le savait très bien. J'enfonçais mes doigts profondément, sans le quitter des yeux. J'adorerais qu'il me regarde. Si vous saviez l'effet que ça fait, vous savez ? Non ? Émile lui avait l'air, je ne sais pas. Il avait l'air d'un papillon dans un filet. Je me sentais forte. Je plongeais mes doigts dans ma chatte, je me faisais gonfler doucement et avec l'autre main, je m'enfonçais un doigt dans le cul. Ça ne rate jamais pour me faire jouir, mais je prenais le temps. Je voulais qu'il vienne à moi sans que je lui demande. Alors j'essayais de rester au bord d'un grand plaisir. Il le voyait, j'avais des spasmes, mais je m'en sortais. J'aimais ça. Le régime de banane, c'est moi qui l'ai apporté. On avait un genre de blague où il me disait qu'il faudrait 10 hommes pour me satisfaire vraiment. Alors j'ai amené ça pour lui dire « Vas-y, prends ton temps, fais-moi jouir avec toutes ». Je lui ai demandé d'ouvrir le sac. Je continuais à me branler pendant qu'il a sorti les bananes. Il a aussi sorti la crème. Ça me semblait idéal pour assaisonner. Et puis, j'ai le palais délicat. Il a ri, il a compris tout de suite. Il en a séparé une, puis deux, et s'est approché de moi. Mais... c'est pas facile à décrire. Je vais vous montrer. Non, ce ne sera pas nécessaire. Et s'il vous plaît, essayez d'être plus factuel. Je n'ai vraiment pas besoin d'avoir tous ces détails. Ah ? Moi, ça me semble important. Vous ferez le tri, c'est votre boulot, non ? Bon, j'en étais où ? Les bananes, je crois. Ah oui, voilà. Il m'a installé sur une chaise après avoir placé doucement une banane dans mon cul. C'était pas compliqué. J'étais tellement trempée qu'il aurait bien pu m'en mettre deux. J'avais peut-être trop bu, remarquez. Parce qu'aujourd'hui, je dois dire que je sens qu'on y a été un peu fort et... mon Dieu, je vous en prie, les fées, ok ? Pardon, oui. Donc, j'étais assise, à moitié en train de jouir, quand il a placé la seconde dans ma chatte. Bon sang, c'était merveilleux. Mais je gémissais un peu fort, je crois. Alors, il a commencé à frotter sa queue sur ma bouche, m'a demandé de le lécher. Je ne savais plus trop quoi choisir avec les mains. Continuer à m'enfoncer les bananes ou glisser mes doigts dans son cul. Je crois que je faisais un peu tout ça. Après, il a mis sa queue vers ma langue, alors je l'ai sucé, très en douceur, hein. Je n'avais pas envie qu'il vienne trop vite et puis j'avais envie de la chantilly. Je me suis décidée quand ma lèvre s'est un peu fendue. Ça avait un petit goût de fer, je saignais à peine, mais j'avais envie de retarder le goût de la mer. Le cul a toujours un goût amer, vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve. J'aime bien ça, mais faut croire que j'avais besoin d'autre chose. Je l'ai bousculé sur le lit. Je ne sais pas ce que j'avais, j'étais un peu... hors de moi, je vous l'ai dit, non ? Et j'ai enlevé la banane de ma chatte, je n'ai gardé que celle derrière et je me suis enfoncée sur lui. J'ai repoussé ses bras au-dessus de sa tête et j'ai noué ses poignets avec la bandoulière du sac. Il s'est laissé faire et il était d'accord, hein, n'allez pas croire n'importe quoi. Pas de problème, je peux vous croire. Voilà, c'est le premier extrait d'une des 20 nouvelles qui composent le livre Oser 20 histoires de faits divers sexuels. Allez, je vous emmène découvrir une autre histoire imaginée par un auteur, une histoire de faits divers sexuels, mais ça sera juste après une petite pause musicale. Alors, on profite du bon son qui va passer, et puis je reviens dans un instant. Le hashtag de l'émission, hashtag LEC, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. À tout de suite sur LSF Radio. Eh bien, la petite pause musicale est terminée. C'est Charlie de retour sur LSF Radio. Les lectures érotiques de Charlie, ça continue de plus belle. Le hashtag de l'émission, hashtag LEC. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Si vous voulez m'adresser directement vos tweets, pas de problème. Mon Twitter, je vous le rappelle, c'est Charlie Live Show. Aujourd'hui, pour ceux qui ont loupé la première partie, je vous lis des extraits de nouvelles que j'ai sélectionné dans le livre « Oser 20 histoires de faits divers sexuels ». Alors, bien entendu, c'est publié à la Musardine, puisque c'est la Musardine qui a créé toutes ces collections « Oser ». « Oser 20 histoires », alors là, on est vraiment sur des nouvelles des nouvelles érotiques, pardon, n'importe quoi. Il y a aussi tout un côté guide pratique, « Oser la fellation »,« Oser la sodomie », etc., etc. Là, du coup, le titre est super clair. Les auteurs ont imaginé des situations plus rocambolesques les unes que les autres, des situations dignes de se retrouver à la page des faits divers. Et je dois dire que moi, je me suis vraiment régalée à lire ce livre. Je vous le conseille, vraiment. Si vous voulez vous l'offrir, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies ou sinon, vous allez sur le site lamusardine.com et là, vous allez le trouver, Oser 20 histoires de faits divers sexuels. Et puis, il y en a plein d'autres. Oser 20 histoires de sexe et d'amour, Oser 20 histoires d'amour au bureau, etc., etc., etc. Ce que j'aime vraiment dans ces recueils-là, c'est que ces 20 nouvelles, alors des fois, c'est pas 20 auteurs différents, des fois, on retrouve plusieurs nouvelles d'un même auteur dans un même livre, mais par contre, c'est des univers à chaque fois différents, il y a au moins une dizaine d'auteurs différents, et j'adore voir comment chaque auteur traite le sujet, c'est un bonheur. Si vous aussi, vous voulez proposer votre histoire, parce que c'est le principe, hein, c'est des recueils collectifs. Il y a un blog oser-vos-histoire-2-sexe.com et en ce moment, justement, il y a un appel à texte qui est lancé. La thématique « Oser 20 histoires d'infidélité » et les textes sont à rendre au plus tard le 1er janvier 2017. Pour avoir toutes les infos, vous allez sur lamusardine.com et là, vous allez voir, il y a le blog « Oser 20 histoires ». Paf, ça vous amène dessus direct et tout est expliqué. Alors, après la nouvelle de Sidonie Mangin, ivre, il est retrouvé mort avec une banane dans l'anus. Là, on change d'univers, on change d'époque aussi. Je vais vous lire une nouvelle qui s'appelle « L'œil de Vichy » et qui est écrite par Anne de Bombec. C'est parti, ouvrez grand vos oreilles. La lecture érotique de Charlie, c'est maintenant. Hashtag LEC, on y va. « L'œil de Vichy », Anne de Bombec. L'affaire eut lieu en 1955. Hubert Herbelot, surnommé plus ou moins affectueusement Hulot par ses voisins et Bébert par son épouse, avait mal vécu l'issue de la Seconde Guerre mondiale. En effet, il fut un pétainiste effréné, un précieux élément si l'on croit de vilaines archives pourtant soigneusement classées et oubliées. Ce petit baron avait joué de ses quelques relations pour étouffer les crimes qu'il avait commis avec la plus saine intention au monde, que l'ordre moral triomphe. Car Hulot, lui, savait ce qu'était le bien et le mal et pouvait en juger. 10 ans après la guerre, les valeurs le préoccupaient bien plus que tout, pour le plus grand désarroi d'Adeline, sa malheureuse épouse, passablement délaissée. Elle avait pourtant toujours passivement collaboré aux joyeuses missions de son mari, fermant ses yeux parfois réticents mais complaisants malgré elle. Cette femme blonde et pétulante, au corps charnu à souhait comme un gros fruit joufflu, n'était pas des plus désagréables. Bébert n'était pas si mal tombé, et parfois, frustré d'avoir encore échoué à faire régner la justice dans le monde des hommes et même dans son propre quartier, il libérait ses pulsions vengeresses au moyen de longues séances sadomasochistes. Puis il s'isolait, honteux d'avoir éprouvé un plaisir qu'il ne qualifiait pas de moral. Le sexe, les frasques, le stupre représentaient un lourd fléau à éliminer. Mission sans doute vaine, mais il ne lui restait plus rien d'autre à espérer. Il continuait donc d'œuvrer pour l'ordre moral mondial en secret. Il avait à la fois la chance et l'infortune d'être au plus près d'une source notable de corruption terrestre, sa voisine Valérie. Celle-ci ressemblait étrangement à Adeline. Elle en était même la version idéale. Quand le poids de la réalité frappait Adeline dans ses chairs, Valérie semblait toujours plus aérienne et gracieuse. Souvent, le triste couple, enfermé dans le silence de la réflexion, l'entendait rire, boire et chanter. Ceci était parfaitement inadmissible pour Hulot, d'autant plus qu'il l'entendait aussi faire l'amour, et parfois avec des partenaires différents. « Didine, Didine ! J'en ai vu passer un autre en regardant par le Judas, et je les ai entendus faire, enfin tu sais, en pleine journée !» Tout le monde a entendu. Daniel et Lisbeth doivent en être toutes retournées. Quelle traînée ! Quelle traînée ! À quoi pense-t-elle ? Le diable marche sur nos têtes. Bébert, elle est jeune. Les mœurs ont changé. Tu sais bien que ce n'est plus comme avant. Avant, tu aurais eu le pouvoir de la faire jeter en prison sur le champ, mais c'est fini tout ça. Et puis, cette petite est sympathique. Elle doit être traumatisée par la guerre. Ses deux parents ont été raflés parce que tu les as dénoncés. J'aimais beaucoup ses parents, tu le sais, toi, ma Didine. Mais je n'ai pas eu d'autre choix que de les dénoncer. Ils ont refusé de porter leur étoile jaune. J'ignore encore comment ils ont pu cacher leur fille qui, reconnais-le quand même, nous donne maintenant bien du fil à retordre. L'innocente Valérie ignorait tout des actions de ses voisins du dessous. Sans quoi, elle aurait sans doute froidement crevé l'abominable œil de Vichy qui l'espionnait dans l'ombre. C'est qu'elle avait d'autres préoccupations. Les folles du deuxième étage, Lisbeth et Daniel, deux vieilles filles aigries et méchantes comme la gale, ne cessaient de lui reprocher d'exister. Daniel était la fille illégitime de Lisbeth et il était fort probable que le père inconnu, prétendument mort à la résistance, fût en vérité Hulot, avec qui la vieille Lisbeth avait entretenu une liaison secrète pendant des années. Cette fille illégitime incarnait toute la culpabilité de Lisbeth et Hulot. Fort heureusement pour eux, Daniel était l'inverse de Valérie. Quand Valérie était jeunesse, féminité, vitalité et libertinage, Daniel était austère, moralisatrice et sèche. Les deux harpies envoyaient la police chez Valérie à tout bout de champ parce qu'elle ne souffrait pas le défilé incessant d'hommes, deux ou trois par an, dans l'escalier de l'immeuble qui brisait leur précieux sommeil. Lisbeth, Daniel et Hulot se réunissaient en silence sur le palier du quatrième étage pour écouter à la porte de la diablesse. Il leur arrivait d'entendre des cris de plaisir aigus, ceux de Valérie, puis rauques, ceux de son amant portés par la transe. Les deux femmes se montraient outrées. Hulot cachait tant bien que mal ses érections. Il se caressait frénétiquement la moustache, à défaut de pouvoir sortir son sexe et se soulager de quelque va-et-vient de sa main droite. Ensuite, il se précipitait chez lui pour faire payer son excitation à sa Didine. Au fond de lui-même, il ne rêvait que d'étrangler et violer la belle Valérie. Son sadisme le brûlait intérieurement, et pour le canaliser, il avait investi tout son être dans l'ordre moral de Pétain, son père spirituel. « Je vais fourrager cette petite pute !» marmonnait-il souvent dans son sommeil. « Elle ne forniquera qu'avec moi !» ajoutait-il parfois. Un soir de printemps, il avait éjaculé sur sa porte d'entrée en regardant les jambes gracieuses de Valérie passer dans l'escalier. C'était comme si elle l'avait frôlé. En voyant ses douces chevilles, ses petits pieds ornés de jolis escarpins à talons aiguilles, il n'avait pu se contenir. Son sperme se répandit partout sur la poignée. Adeline, comme toujours, fermait les yeux. « Cette vicieuse revient du bal, j'en suis sûre !» beugla-t-il, le souffle encore coupé. Séraphin, vivant au sixième étage, et William, l'occupant du cinquième, vaillant soldat anglais, voyaient d'un très bon œil les défilés de robes et de prétendants de leur voisine. Ils partageaient les mêmes envies que Hulot, mais n'avaient pas développé d'agressivité particulière à l'encontre de Valérie. Ou bien savaient-ils se montrer plus discrets ? Il n'était pas impossible, mais nous n'en avons pas la preuve, Kathleen aima William une nuit d'hiver lors d'un déplacement de son éternel mari en province. William appréciait les blondes et le répétait avec humour en parlant des bières qu'il buvait par litre. « J'aime les blondes !» Pendant que William prenait sa dose de houblon, Séraphin causait avec Célestine, la mégère du premier étage, des nouvelles de l'immeuble. « Quoi de neuf ?» demandait-il. Elle aussi avait l'œil bien vissé au Judas. Elle allait de la fenêtre à l'œilleton, de l'œilleton au Judas, courant ainsi toute la journée. Voilà pourquoi elle était invariablement débordée. Elle n'arrivait pas à occuper ses deux postes à la fois. Ainsi, Célestine discutait avec Séraphin, William picolait, Adeline lisait, Hulot scrutait. Ce dernier semblait pourtant inquiet en ce jour parfait où Valérie ne faisait pas l'amour l'après-midi. Et l'inquiétude était précisément là. Il ne l'entendait plus, ni ne la voyait davantage grimper l'escalier. Il l'espérait. Adeline semblait en savoir davantage. « Bébert, tu étais sorti hier après-midi. Il y a eu un baroufle d'enfer chez la petiote. »« Ah ? J'ai entendu des cris, mais je ne sais pas si c'était des cris de... Enfin, tu vois, qu'il lui soit arrivé des misères ne m'étonnerait pas. » Eh bien, voilà ce qui arrive aux filles de mauvaise vie. Un de ses amants l'aura recadré, c'est bien fait. » En imaginant un amant furieux rossant vertement les fesses de Valérie, Hulot fut saisi de passion et ordonna à Adeline « Retrousse ta robe, traînée !» Habituée à ce rituel auquel elle avait finalement pris goût, Adeline se mit en position à genoux sur la bergère. « Je vais te faire mal aujourd'hui, j'en ai besoin, baisse ta culotte !» Adeline découvrit alors ses fesses charnues du pantis de satin rose pâle qui emprisonnait ses jambes potelées. Elle portait comme chaque jour des bas coutures et des porte-jartelles, petite frivolité que Hulot lui reprochait tant qu'elle servait de prétexte pour assouvir ses désirs. Hulot s'approcha et asséna une claque sévère sur le cul de sa femme qui poussa un petit cri. « Tais-toi, souillon, sinon je te baïonne !» Il frappa plus fort. La bergère manqua de basculer. Ne résistant pas, Hulot baissa son pantalon afin de libérer la pression. Il bandait aussi dur que le jour où il avait malencontreusement repeint la porte d'entrée. Il attrapa les cheveux d'Adeline pour la cambrer davantage. « Valérie, je vais te punir de toutes tes phrases que tu m'entends, salope !» À se faire appeler Valérie lors des séances de sexe, Adeline s'était aussi habituée mais n'y avait pas pris tellement goût. « Valérie, je vais t'enculer, tu l'as bien cherché !» À ces mots, le large anus d'Adeline s'ouvrit malgré les efforts de sa volonté. Hulot lui avait pourtant maintes fois rappelé qu'elle devait faire semblant d'être violée et donc manifester de la réticence à la pénétration. Mais elle n'y pouvait rien. La mascarade l'excitait trop. « Ça te plaît, hein, vicieuse ? Je vais chercher le martinet. Je vais ramener l'ordre dans ta vie dissolue. » Adeline redoutait le martinet qui marbrait sa chair et l'empêchait de s'asseoir pendant plusieurs jours. Mais Hulot, ce jour-là, avait opté pour un usage assez différent de l'outil de l'ordre moral, dont il enfonça le manche dans l'orifice béant de sa femme qui mouilla davantage. « Tu fais moins la maligne, là, petite Valérie !» Il plongea le martinet plus loin en l'agitant frénétiquement. Adeline couinait. « Je vois qu'il prend souvent cher, ce trou du cul !» Tout en martyrisant son épouse plus que de raison, Hulot se masturbait et ne résista pas longtemps. Il gicla sur les fesses de sa femme en poussant de grands cris efféminés. « Tu ne mérites même pas que je te pénètre !» hurla-t-il enfin tel une bonne femme hystérique, fuyant vers la cuisine tout en claquant la porte du salon dans un grand fracas. Adeline restait là, le siège en l'air, martinet planté en son fondement. Elle se caressa et jouit à son tour. Ses ébats, bien que constituant une pièce importante du dossier, ne ramenèrent pas Valérie qui avait alors disparu depuis une bonne semaine. C'est Hulot qui convainquit Célestine, Séraphin, William, en lui promettant une bière, Lisbeth et Daniel d'alerter la police, cette fois pour une raison valable. Voilà, voilà, la suite. Bon, on n'est pas loin de la fin, mais je ne vous lirai pas la fin parce qu'il n'y a plus le temps, puis parce qu'il faut laisser un petit peu de suspense quand même. Donc, L'œil de Vichy, écrit par Anne de Bombeck, c'est à retrouver dans le livre Oser, 20 histoires de faits divers sexuels. Et c'est disponible sur lamusardine.com. Allez, on va se faire une troisième histoire rocambolesque, une troisième histoire de faits divers sexuels, mais ce sera juste après la pause musicale, le temps pour moi d'aller chercher mon womanizer pour vous faire la troisième et dernière partie en mode hysterical littérature. Le hashtag de l'émission, hashtag LEC, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et on se retrouve dans une poignée de minutes sur LSF Radio, bien entendu.